Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Il est un militant, un homme de combat, un pacifiste qui a refusé de faire son service militaire, un éleveur de brebis sur le causse du Larzac, engagé dans le syndicalisme agricole au sein de la Confédération paysanne, un ardent défenseur de l'écologie et de l'agriculture non productiviste, pourfendeur de la malbouffe et de l'industrie agroalimentaire. Un eurodéputé aussi, engagé contre les pesticides, les OGM, les multinationales et la mondialisation libérale. Bref, un acteur remuant et haut en couleur de la vie politique française et européenne des années 2000. Un sacré personnage aussi, avec sa pipe et sa moustache à la Astérix. Les plus anciens d'entre vous auront reconnu José Bové, les plus jeunes vont apprendre à le connaître, car il est désormais un personnage de cinéma, incarné par Bouly Lanners. Le film est un passionnant thriller au cœur des instances européennes, inspiré d'une histoire vraie, une histoire de mensonges et de complots, qui met en scène le Parlement, la Commission, l'OLAF, c'est-à-dire l'Office européen de la lutte antifraude, et le puissant lobby du tabac. Une affaire de principe, c'est le titre, et c'est le nouveau film d'Antoine Rimbaud. Il sera ce mercredi sur les écrans, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Antoine Rimbaud.
Bonjour.
Et bonjour à vous José Bové.
Bonjour.
Alors Antoine Rimbaud, comment le cinéaste que vous êtes s'est-il emparé de ce que l'on pourrait appeler schématiquement l'affaire Dali ?
Je suis d'abord tombé dessus par hasard en faisant des recherches sur les lobbies de manière assez large. J'avais comme ça une envie de cinéma, de faire un thriller contemporain autour de ces questions-là, la démocratie, les lobbies. Et je tombe sur cette affaire Dali qui me paraît condenser tous les ingrédients pouvant nourrir ce projet-là, avec en plus la présomption d'innocence, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et puis les institutions européennes. Et je me rends compte que José Bové s'est investi dans cette affaire au point de mener sa propre enquête avec son équipe. Et je me rends compte ensuite qu'il a écrit ça dans un des chapitres de son livre « Hold up à Bruxelles » que je m'empresse de lire. Et là, on fonce voir José Bové.
Voilà, Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe. Le livre est paru en 2014 aux éditions La Découverte. Donc, Antoine Rimbaud vient vous voir. José Bové, comment vous réagissez ? Il est venu déjà dans l'idée de faire de ce chapitre dans le livre un film ?
Alors, en fait, moi, je suis pas du tout au courant de toute cette démarche au départ. Et je l'apprends parce que j'ai un coup de téléphone de Robert Guédiguian. Et
c'est Robert le cinéaste
voilà, qui en même temps, qui a aussi sa maison de production, Agathe Production, et qui va être cette maison un des partenaires, et qui me dit, est-ce qu'il faudrait que tu rencontres Antoine Rimbaud, parce qu'il a un projet de film, et il aimerait bien te rencontrer pour en discuter, il a déjà travaillé, etc., etc. Et c'est comme ça que ça se passe.
Donc vous allez voir José Bové, Antoine Rimbaud, il vous offre une assiette de Roquefort peut-être dans le Larzac,
non ? Entre autres, effectivement.
Entre autres, voilà. On et donc vous bien. Lui vendez le film. Comment vous lui vendez le film ?
Je l'interroge surtout. J'arrive avec mon co-scénariste qui s'appelle Marc Sirigas. On a déjà un petit peu épluché des données, quoi, des éléments de l'affaire, fait des recherches, bien lu le chapitre en question. Et on va à la rencontre de José, mais aussi de son assistant parlementaire de l'époque, Jean-Marc Desfiles. Et tous les deux, ils nous racontent, ils nous re-racontent comme ça, mais de manière plus vivante, leur enquête.
Oui, parce qu'on se dit, c'est quand même assez mince le chapitre d'un livre pour bâtir tout un film.
Alors, il y a le chapitre du livre qui est effectivement le premier élément. Et puis, il y a tout ce qu'on a pu trouver. En fait, le film reprend vraiment avec le plus de rigueur possible les éléments de l'enquête. Et puis, en même temps, il y a un an et demi d'enquête à réduire en 1h30. Le gros exercice, c'est plutôt celui comme ça de la réduction, de la transformation pour faire du cinéma avec tout ça.
Alors, l'idée vous a emballé tout de suite, José Bové, ou il a fallu quand même vous convaincre ?
Oh non, il n'a pas fallu me convaincre. Non, ça, de suite, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'enfin, on va parler une fois de l'Europe, on va parler de la démocratie, on va confronter cette réalité des lobbies et de la Commission européenne. Et je me dis, si on peut faire la fête un peu à Manuel Barroso, le président de la Commission de l'époque, ça serait pas mal.
Oui, et effectivement, c'est bien ce qui se passe dans le film. Hein, ça, de ce point de vue-là, je pense que vous vous êtes bien retrouvés, effectivement. Tous les deux, il faut bien préciser, José Bové, que les lobbies au sein de l'Union européenne, c'est institutionnalisé, quoi. C'est pas quelque chose de caché.
Non,
ils ont toute leur place dans le fonctionnement. On leur donne un positionnement, on va dire, institutionnel ou quasi.
Il y a à peu près 12 500, 13 000, maintenant, je ne sais pas aujourd'hui, lobbyistes qui ont leur badge de lobbyiste. Donc, ils sont identifiés. Là-dessus, il y en a un tout petit tiers, même pas un quart peut-être, qui sont en fait des associations qui lutte pour les droits de l'homme, pour l'environnement, pour le climat, donc des associations qui défendent l'intérêt général, et tout le reste, ce sont effectivement des entreprises privées qui essayent de faire passer des règlements ou des directives qui vont évidemment aller dans leur sens et leur permettre de gagner beaucoup d'argent.
Et vous, en tant qu'eurodéputé, vous rencontriez tout le monde ?
Alors moi, je rencontrais personne, parce que on en a rencontré qu'un, une fois au tout début, peut-être 15 jours après qu'on soit arrivé, mais on l'a mis de suite dans la presse, ils voulaient nous vendre un produit pour stériliser les porcs, mais si on se piquait avec, celui à qui c'est arrivé, il était dans la situation du porc stérilisé aussi, quoi.
D'accord.
Donc on lui a fait sa pub et ça a suffi. Et après, il suffit de ne pas aller au cocktail, de ne pas aller à des pinces-fesses, de ne pas accepter de se faire inviter au restaurant. Et comme ça, tout va bien.
Mais donc, vous en avez fait une affaire de principe, là, pour reprendre le titre du film.
Ah mais oui,
pas de lobbyistes, y compris des chargés de plaidoyer d'ONG environnementalistes.
Ça,
parce qu'ils font partie des lobbies, quand même,
moi,
juridiquement parlant.
Ils ont la carte, mais ça, ce sont les associations que je connaissais avant de venir. Hein, et donc, notamment, toutes celles qui luttent contre les lobbies et qui font tout un travail pour informer les citoyens. Il y en a même qui sont habitués à... Ils font des tours, comme un tour opérateur dans le quartier autour de la commission et du Parlement, en disant à telle adresse, il y a tel lobby d'entreprise, et ils décryptent les gens. Donc les gens peuvent faire le tour des lobbies, comme ça, dans l'après-midi. C'est très intéressant, et ils sortent avec un petit fascicule où on leur explique tout ça. Ça, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas des lobbyistes, ce sont des gens qui travaillent pour la transparence et l'intérêt général.
Alors, au centre de l'histoire du film, il y a donc José Bové, mais aussi ses deux collaborateurs, parce que l'enquête que vous mettez en scène dans le film, Antoine Rimbaud, en tant que réalisateur et en tant que co-scénariste avec Marc Sirigas, c'est aussi une aventure collective, mais avec finalement... très peu de moyens, quoi. On a presque l'impression d'un travail artisanal, quoi.
Alors, c'est ça qui nous a passionnés quand on a commencé à tirer le fil. C'est qu'on s'est dit, mais c'est génial, on n'a jamais vu, nous, déjà en tant que spectateurs, d'enquêteurs qui soient ni policiers, ni journalistes, qui soient des députés. En l'occurrence, un député et ses assistants. Et il se trouve que José surnommait ses assistants ses co-députés. Et oui, on trouvait ça passionnant de regarder de plus près ce travail de fourmi que font les parlementaires et leurs équipes. Alors là, il y a eu une demande d'enquête parlementaire. Finalement, il n'y a pas eu d'enquête parlementaire, mais ils ont quand même mené une enquête.
Voilà, l'un des objectifs, c'était de provoquer l'ouverture officielle d'une enquête du Parlement européen.
Voilà, et ça me passionnait, moi, de représenter ça, ces lieux et ces protagonistes. Parce qu'il y a un grand malentendu entre l'opinion publique et l'Europe. Peut-être parce qu'elle n'est pas assez représentée et dans la fiction, tout reste à faire. Donc c'était le premier enjeu, c'était ça.
Alors il y a donc José Bové, interprété par Bouly Lanners, on va en parler longuement dans un instant. Il y a aussi Fabrice, joué par Thomas VDB. Alors Fabrice, c'est la version cinéma du vrai collaborateur de José Bové, Antoine Rimbaud ?
Oui, qui a très fortement inspiré le personnage interprété par Thomas VDB, qui s'appelle Jean-Marc Défile et qui a été aussi une source... pour notre travail sur le scénario.
Oui, personnage un peu blasé, il est un peu fatigué, on sent qu'il est un peu en bout de course quand même, José Bové, dans le film, le personnage de Fabrice.
Alors dans le film, oui, puis grâce à Clément, joué par Céline Brunkel,
et bien, la jeune stagiaire qui rejoint l'équipe.
Il se redynamise. Dans la vraie vie, comme tout le monde, il a des hauts et des bas, mais ça fait, on est resté ensemble 10 ans, on avait avant travaillé pendant 10 ans ensemble à la Confédération Paysanne, et là, il vient de finir... un autre mandat avec celui qui m'a succédé au Parlement européen, qui s'appelle Benoît Biteau, qui était paysan et qui est donc député sortant. Donc voilà, donc pour quelqu'un de blasé, il tient encore la route, quoi.
Ouais. Bon, et effectivement, la jeune stagiaire va lui redonner un peu un coup de boost. Alors, la jeune stagiaire, elle s'appelle Clémence, elle est jouée par Céleste Brunkel. Personnage là complètement inventé ou inspiré quand même d'un personnage réel, Antoine Rimbaud ?
Il y a, à mon avis, beaucoup de Clémence au Parlement européen qui se démènent.
Ouais.
J'en ai au moins rencontré une qui s'appelait Clémence et qui était une ancienne stagiaire devenue assistante. Clémence, c'est un peu moi. C'est-à-dire que j'arrive en profane dans le Parlement européen, je n'ai pas les codes. Je me suis un peu reglissé dans leurs pas pour recreuser cette enquête en relisant tout leur travail. Et j'ai appris énormément. Et ma rencontre avec José et Jean-Marc m'a à revitaliser ma croyance dans le politique, si vous voulez. Donc c'est un peu ça qu'on raconte à travers Clément, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle n'y connaît rien, elle va apprendre, elle va un peu les secouer, parce qu'elle est d'une génération qui espère encore beaucoup de la justice.
Un peu idéaliste, oui.
Un peu idéaliste, et puis elle va un peu apprendre en chemin la différence entre la justice et le droit, et puis finir par être peut-être presque une incarnation de la relève, de la suite, quoi.
Voilà, et c'est avec Clémence que le spectateur entre dans le film. Elle arrive à Bruxelles en jeans basket avec un énorme sac à dos. Et c'est donc Fabrice, alias Thomas VDB, qui l'accueille et qui l'a fait traverser les immenses coursives du paquebot bruxellois.
C'est quoi les réunions qui vous concernent ?
Ouais, tout ce qui touche à la PAC. L'EFSA, le CETA, le BCAO, le COPACOGECA. Ouais, j'espère que t'aimes bien les acronymes, quoi.
On est au quatrième ou au cinquième, là ?
Cinquième. Au bout de 3 mois, on se repère.
3 mois, c'est la durée de mon stage.
Ah, c'est pas plus ?
Avec vous, c'est seulement 3, mais après, j'ai un autre stage au 3e.
Tu te débrouilles bien, toi ?
Non, mais en fait, j'ai pas fait exprès. À la base, j'avais demandé un autre stage, qu'on m'a refusé, et après, j'ai postulé chez vous. Mais l'autre, en fait, c'était bon. Mais du coup, pour la rentrée, quoi.
Donc en vrai, on est au plan B, quoi.
Merci. Oui, voilà. Enfin, non, vous êtes pas mon plan B, je voulais pas dire.
Non, je disais ça pour rire. Non, ne t'inquiète pas. Non. De toute façon, on a l'habitude, personne ne peut nous blairer ici.
Ah bon.
Tu parles anglais ?
Oui, ça va.
Et on m'a dit que tu faisais du droit ?
Nous y. On fait que ça.
Moi, c'est vraiment ça, mon truc. La justice, c'est toute ma vie.
Attention que la justice, c'est pas le droit. Oh.
Comment ça ?
Bah non, pas vraiment, pas toujours. Si c'est ça que t'attends, tu risques d'être déçu. Parce qu'ici, nous, c'est dans le droit qu'on croit.
Disons que le droit, ça aide à garder la tête froide, tu vois.
Voilà, et la phrase qu'on vient d'entendre, là, c'est vraiment l'un des nœuds du film. Je la répète, la justice, c'est pas le droit. Ici, nous, c'est dans le droit qu'on croit. C'est vraiment ce que vous pensiez à l'époque, José Bové ? C'est une phrase de vous, cette phrase-là ?
Oui, c'est une phrase de lui.
Ah oui, c'est...
Ça peut étonner, parce qu'on se dit, José Bové, Astérix, c'est plus la justice, l'appétit de justice, que le droit romain, quoi, non ?
Alors, moi, c'est pas le droit romain, moi, j'essaye de créer du droit. Et donc, tout combat amène à créer des nouveaux droits. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on se bat, par exemple, contre les OGM, c'est pas juste pour ceux qui en est plus, c'est pour faire en sorte qu'une autre forme d'agriculture émerge et que ce type de modification soit interdit. Donc on crée du droit. Quand, quelques années après, juste au même moment que le film, on se bat contre le gaz de schiste, eh ben on fait voter une loi qui interdit la fracturation hydraulique, qui est la seule façon d'utiliser le gaz de schiste. Donc on ne peut pas attaquer sur le fond, mais on attaque sur la forme, c'est-à-dire... les techniques d'extraction, etc., etc. Donc, construire du droit, c'est toujours une façon intéressante d'avancer, et c'est l'objectif final.
Mais dire à une jeune fille comme Clémence, la justice, si tu te bats pour la justice, tu risques fort d'être déçu, c'est quand même violent de la part d'un militant comme vous.
Mais c'est souvent vrai. C'est souvent vrai. Moi, je l'ai vécu très souvent. La justice, on peut se retrouver condamné, on va dire c'est injuste, ou quelqu'un va être condamné, c'est injuste. Mais c'est parce qu'il est condamné qu'on fait bouger les lignes. Et donc, chaque fois que j'ai été incarcéré, j'ai fait plus bouger les lignes en allant en prison que si j'avais obtenu une relaxe. Donc, on pousse toujours l'adversaire au bout et on le contraint à vous condamner. Et en faisant ça, on peut construire des nouveaux droits.
Cette différence, justement, entre le droit et la justice, qui vraiment bâtit toute la relation, finalement, entre le personnage de Bouly Lanners, José Bové, dans le film, et la jeune fille dans votre film, Antoine Rimbaud, c'est d'abord une différence d'expérience, une différence de génération, ou c'est vraiment une différence de vision de la vie, en réalité ?
Moi, j'avais fait un film sur la justice, un premier film sur la justice qui interrogeait l'institution judiciaire dans ses dysfonctionnements, qui s'interrogeait sur la part du doute et de l'intime conviction dans le procès pénal. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de s'intéresser au droit et de faire le distinguo. La justice, c'est toujours humain, c'est toujours imparfait. Le corollaire de la justice, c'est l'injustice. L'un ne va pas sans l'autre, ça dépend de quel côté on se place. Le droit, c'est plus solide. Le droit, bah, c'est les directives et les lois qu'on vote au Parlement européen. Le film s'ouvre sur le vertige avant le vote. Et puis, on fait d'une directive anti-tabac qui va être votée. Et puis, on fait un flashback un an plus tôt. Et là, on va voir tout ce qui s'est passé dans les coulisses et qui a amené au vote de cette directive.
Donc la fabrication, voilà. de la directive.
Et je trouve que... En fait, j'ai essayé à travers un thriller dans lequel il se passe plein de choses, dans lequel il y a une enquête avec plein de rebondissements, de filmer l'état de droit. Voilà, le droit et la démocratie, c'est un peu conceptuel là, dit
oui,
comme
oui,
ça.
Parce qu'on se dit c'est pas cinématographique le droit.
Mais c'est un peu de ça qu'il
est. À part dans les films de procès, évidemment.
Oui, oui, en l'occurrence la justice. Mais oui, de raconter ce qui se passe dans les coulisses de ces institutions qui votent des lois et qui changent le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour. J'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non. N'imagine pas dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien. Serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour, d'amour.
Sup Raphaël dans la playlist RFI de ce mois d'avril, VMDN avec le réalisateur Antoine Rimbaud et l'ancien eurodéputé José Bové pour le film Une affaire de principe qui sera mercredi sur les écrans français. Nous sommes donc en 2012 à Bruxelles quand on apprend le limogeage brutal et inattendu du commissaire européen à la santé, le maltais John Daly. Une nouvelle qui surprend José Bové, incarné dans le film par Bouly Lanners, et son collaborateur Fabrice, joué par Thomas VDB.
Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. D'après l'OLAF, l'Office européen de la lutte antifraude, John Daly était prêt à monnayer son influence pour modifier la future directive anti-tabac dont il était en charge.
J'aimais bien me coordonner avec Daly, moi. C'est un conservateur, mais au moins, il fait pas semblant, lui.
Et sur la viande clonée, il a pas fait semblant.
Ah ben ça, au moins, c'est idée contre idée. Il a le mérite d'être franc.
Il a peut-être franchement tapé dans la caisse, hein.
Non, mais c'est bizarre, quand même. Ça fait 2 ans et demi qu'il a rebooté sur sa directive. Son père est mort d'un cancer des poumons, ça tient pas la route.
Voilà, ça tient pas la route. Ça, c'est donc, dès le départ pour vous, José Bové, l'expression, pour reprendre le titre d'un autre film d'Antoine Rimbaud, d'une intime conviction. Ça, vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose. C'est de l'instinct.
Ah oui, c'est complètement de l'instinct, parce que, effectivement, alors là, pour le coup, le moment s'est passé de cette manière-là. On est en réunion, on voit cette dépêche, on sort, et on se dit, il y a un truc qui ne fonctionne pas.
C'est ouais,
pas
vous étiez du... à Marseille, il y a une réunion.
Oui, alors c'était Marseille, ou c'était ailleurs, mais c'était, ouais, la journée, ouais, c'était la journée du groupe parlementaire, ouais, à chaque rentrée. Donc on apprend ça de cette manière-là, et on s'est dit, c'est pas possible, quoi.
Il y a un truc qui ne va pas.
Non, parce que chaque fois que je le rencontrais, on se battait sur les OGM, les additifs alimentaires, tout ce qu'on veut. Mais là, il nous vantait en même temps sa directive pour le paquet neutre, pour vraiment bousculer l'industrie et vraiment leur faire rendre gorge. Et c'est pas possible qu'il ait demandé et qu'il ait piqué dans la caisse. Là, il y a deux choses, deux mondes qui sont complètement en opposition. Simplement, on n'a rien sur le moment pour le prouver, à part sa parole, où il nous avoue deux, trois jours après à Bruxelles que c'est pas vrai, que jamais il a demandé ça, qu'il est tombé dans un guet-apens. Sauf qu'il faut démontrer le guet-apens.
Voilà, et c'est ce que vous allez vous efforcer de faire avec vos collaborateurs. Alors précisons-le tout de suite, mais vous le disiez entre les lignes il y a quelques secondes, John Daly, c'est pas un ami politique à vous, quoi. Il est vraiment dans le camp d'en face.
Ah oui, clairement.
C'est un conservateur.
C'est un conservateur, il est de droite, il fait partie de la majorité de l'époque à Malte. Donc clairement, la droite, sur les valeurs, scientiste jusqu'au bout des ongles, enfin bref, tout ce que je déteste. Quand on est en confrontation directe, ça fonctionne, parce qu'il ne cache pas ses positions.
Il respecte les règles, donc vous aussi.
Je respecte, et puis voilà, et on dialogue, et même on fait avancer un certain nombre de choses, sur l'agence notamment sanitaire des aliments. Donc les choses avancent, et effectivement, à un moment... Quand on dit, écoutez, on ne comprend pas ce qui se passe, on va mener notre enquête, ce qui est redit dans le film, il dit, mais pourquoi vous m'aidez? Parce que moi, mes propres amis ne m'aident pas. Et c'est vrai, mais parce que là, je pense qu'il y a effectivement un dysfonctionnement. Et que, de suite, je me dis, c'est en haut de la pyramide que ça se passe. Comment se fait-il? Ce n'est pas quelque chose qui se passe à la base. Ce n'est pas un fonctionnaire dans son staff de la commission santé qui a fait une manigance. Ce n'est pas possible. Ça va bien au-delà de ça.
Nouvel extrait du film, ça se passe cette fois-ci à la cafétéria.
Tiens, regarde José. Il fait du porte-à-porte, on dirait un VRP. Là, il leur dit, mais enfin, il faut absolument demander une commission d'enquête sur Dali. C'est un scandale. Barroso s'est encore surpassé dans l'autoritarisme. Sauf qu'il convaincra personne.
Et pourquoi pas?
Tous les mecs de droite flippent. Ils regagnent leur pompe. Attends, t'imagines les conséquences pour eux, pour leur carrière. S'ils se mouillent pour Dali et qu'il est vraiment coupable.
Et José, sa carrière?
Ils s'en foutent, lui. Ce qui l'intéresse, c'est le pas de côté. Tiens, il va aller à gauche maintenant, regarde. Alors là, c'est l'inverse, il se frotte les mains. Enfin, José, c'est très bien qu'un type de droite se soit fait virer. Où est le problème?
Non, non, ils disent pas ça, ils parlent de foot. De Laurent Blanc qui a renié ses principes. Je sais lire sur les lèvres.
C'est vrai?
Bah non, c'est une blague. Je déconne.
Donc là, Bully Lanners qui joue votre rôle, José Bové, va voir la droite, va voir la gauche, y compris à la cantine pour trouver des alliés. Bon, ça, c'est la marche normale, le fonctionnement normal de l'Union européenne, quoi. On cherche à constituer des coalitions, question par question, et on essaie de convaincre tout le monde.
Au Parlement européen, tous les députés sont élus de la même manière, à la proportionnelle intégrale. Donc il n'y a pas un groupe qui peut être majoritaire à lui tout seul. Donc il faut, pour chaque thème, chaque fois qu'il y a un vote, il faut construire une majorité. Donc ça, c'est le système du compromis permanent au Parlement européen. Et ça fonctionne plutôt très bien. Et là, pareil, pour constituer une commission d'enquête, il faudrait faire la même chose, qu'il y ait plusieurs groupes, sauf que personne ne veut y aller et que le président du Parlement européen n'a pas du tout envie d'y aller non plus. Donc je me retrouve coincé et au final, on mène ce travail d'enquête à trois, avec Madame Gressle, Inge dans le film, Bart Staes, un autre député du groupe des Verts comme moi, et on est trois, avec nos assistants, à essayer de mener cette espèce de rapport de force improbable, mais dont petit à petit, parce qu'on fait craquer les uns après les autres, il y a les enquêtes, et puis il y a des retournements de situation, et qui montrent qu'au fur et à mesure, notre intuition est juste, et que donc on va pouvoir affirmer nos principes de base sur la démocratie et le droit.
Alors, c'est une affaire de principe, pour reprendre le titre du film, mais c'est aussi, si l'on entend là, le personnage de Fabrice dans l'extrait qu'on vient de passer, c'est aussi votre amour du pas de côté, pour reprendre l'expression. Ça veut dire que vous voulez, donc il y a les principes, vous voulez vous payer Barroso, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, en même temps, il y a un petit côté un peu chevaleresque presque artistique, finalement, dans cette possibilité que vous saisissez de défendre un adversaire.
Je dirais que ça fait partie du combat. C'est-à-dire que si on ne peut pas passer par la voie royale, il faut bien essayer de trouver le chemin de côté, le pas de côté. Et je dirais que c'est un peu comme quand on désobéit à une loi. comme on dit très souvent, c'est Dominique Rousseau qui est professeur de droit constitutionnel qui le dit, dit quand tous les canaux de la démocratie sont bouchés, c'est là où on désobéit. Eh bien, c'est la même chose.
On ne peut pas passer par la porte, donc on essaie de passer par la fenêtre.
Il faut toujours construire, mais toujours dans un rapport de force qui est basé sur des valeurs aussi.
Alors, Antoine Rimbaud, en plus, il y a un autre pas de côté, c'est que José Bové, on le connaît, il a toujours la pipe au bec. Donc, profondeur du lobby du tabac, on peut se dire, c'est quand même assez, assez baroque. Est-ce qu'il a été question, ne serait-ce qu'une seconde, que José Bové incarne lui-même à l'écran son personnage?
Non, ça n'aurait pas eu de sens. D'abord, il n'est pas acteur,
non,
pour commencer.
Très, très mauvais.
Et vous avez offert à Dupont Moretti son premier rôle, Lelouch, dans il un... a fait tourner Tapie,
oui,
ça aurait
mais,
pu, non?
Oui, mais les exemples que vous citez, alors j'ai fait tourner effectivement Éric Dupont Moretti dans un court-métrage, mais il ne jouait pas le rôle d'Éric Dupont Moretti. Ensuite, j'ai fait un film dans lequel le personnage était incarné par un acteur, comme là. Et puis, chez Lelouch, Tapie n'a pas joué Tapie. Enfin... C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, j'ai besoin de héros de cinéma. Alors, j'ai un peu ce truc d'essayer de les rencontrer dans la vie, voilà. Mais non, c'était pas pensable. Pour revenir sur la question du pas de côté, je crois que ça raconte aussi, et c'est une singularité, c'est vrai, que José Bové préfère sa liberté à sa carrière politique. C'est ça, le pas de côté, je crois. C'est-à-dire qu'il a sa façon de faire à lui. Et moi, ça m'intéressait. Il y a quelque chose, effectivement, d'héroïque, là. D'aller au-delà des logiques de parti, quoi. Et d'ailleurs, le film invisibilise un peu les partis politiques, inconsciemment. Hein, mais c'est pas trop le sujet, en fait. Hein. Le sujet, c'est le respect de la règle. Et c'est pour ça qu'il agit. Alors, on revient toujours sur ce titre. C'est vraiment pour ça qu'il est là. Alors, peut-être, effectivement, Barroso l'énervait un peu, personnellement.
Oui. Il en a fait aussi des personnelles. Voilà, peut-être.
Mais c'est avant tout pour qu'au sommet
de
l'institution... Mais c'est
parce qu'il ne respecte pas le droit,
c'est
qu'il m'énerve.
Il veut qu'on respecte.
On revient à l'affaire de principe. Ah, voilà, donc ça, c'est clair. Mais alors, tout de même, José Bové, j'insiste, parce que vous êtes quand même un sacré acteur, parce que quand on fait de la politique, quand on se sert des médias, et vous êtes toujours beaucoup servi des médias, avec beaucoup de talent, tout le monde, même vos adversaires d'ailleurs, le reconnaissent en tant que syndicaliste ou activiste, quand vous démontez un McDo devant les caméras de télévision, quand vous fauchez un champ de GM devant les caméras de télévision, vous êtes aussi un peu acteur, quelque part. Vous jouez avec votre image pour faire passer des messages et pour raconter une histoire.
Je dirais que quand on veut gagner un combat, donc faire bouger les lignes, il faut que l'opinion publique soit avec vous. Je dirais que au début, on mène un combat et puis il n'y a que nous. Et puis au fur et à mesure, ben, les gens petit à petit comprennent de ce dont on parle. La première caisse de résonance, ce ne sont pas les médias au départ, ce sont les tribunaux. Et c'est dans les tribunaux que se font les premiers meetings, entre guillemets. C'est quand même là où ça se passe. Et petit à petit, ça bouge. Et une image est extraordinaire. Combien de combats au XXe siècle se sont illustrés? La marche du sel de Gandhi, la marche de Selma, de Luther King, et je peux en multiplier comme ça en quantité incroyable. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est qu'on prend les gens à témoin et on est là ouvert. On nous reconnaît, on sait qui on est et on fait les choses. Et évidemment, l'adversaire, souvent, eh ben, pour ça, il vous poursuit. Mais en vous poursuivant, vous devenez victime, et devenant victime, c'est lui qui se trouve piégé.
Alors, dans le film Une intime conviction, le personnage de Jacques Viguier était joué par un grand acteur belge, Olivier Gourmet.
Non, le personnage de Dupont-Moretti.
Le personnage de Dupont-Moretti, voilà, excusez-moi. Dans Une affaire de principe, vous êtes tourné vers un autre acteur belge.
Oui, c'est le hasard.
Grand aussi. Bouly Lanners, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément aller les chercher en Belgique, les grands acteurs?
Ben, en tout cas, la Belgique regorge de bons acteurs, il faut croire. C'est le hasard total, quand même. Mais
alors, pourquoi Bouly Lanners?
Eh ben, ça m'est venu comme ça intuitivement. C'est toujours difficile de répondre à ces questions de manière rationnelle. C'est une intuition, quoi. J'aimais énormément le travail de Bouly Lanners. Je l'ai repéré depuis des années. Je suis pas obsédé par la ressemblance. On n'est pas aux États-Unis à faire des biopics et à vouloir faire des sosies. Mais évidemment que José Bové, il a une moustache, il a une pipe. Il y a un certain nombre de points cardinaux comme ça de l'incarnation du vrai José Bové qu'on a gardé. Je trouvais que Bouly avait à la fois quelque chose de... une forme de tendresse, de sagesse, de douceur, quelque chose presque de féminin chez Bouly, et en même temps quelque chose d'un peu punk, un peu rentre-dedans, un peu... Et c'est un homme... d'action, un peu Bouly. En tout cas, dans l'imaginaire qui est le mien.
Alors, face à face tendue entre deux fauves, Bouly Lanners, qui incarne José Bové, et Joaquim de Almeida, qui joue Barroso.
La commission doit rendre des comptes au Parlement, point barre. C'est le principe même du fonctionnement démocratique. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde.
Qui êtes-vous, monsieur?
José Bové, Europe Écologie.
Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. Que plus c'est pour un député.
Pardon, mon quoi?
Vous m'avez très bien entendu.
Non, ce qui alimente le populisme, monsieur le président, c'est votre autoritarisme. Et cette opacité que vous entretenez, qui font naître les pires fantasmes du tous pourri chez les citoyens.
Merci pour votre cours de civisme, monsieur le député. Nous avons du travail.
Il est venu vous voir, Bully Lanners, José Bové.
Alors, c'est le chemin un peu rituel, hein. Il y a un chemin coutumier qui part de la gare de Montpellier, qui monte sur le plateau et jusqu'à chez moi. Et donc, Antoine avait fait ce chemin, et Bully Lanners l'a refait avec Antoine, et ils sont venus à la maison aussi passer un week-end ensemble. Et ça a été un moment... c'était un vrai moment de rencontre.
Qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez donné quelques conseils pour vous incarner? Ou est-ce que c'est vraiment à bâton rompu, petit à petit, qu'il a appris à devenir vous, d'une certaine façon?
On a beaucoup parlé de tronçonneuses.
De tronçonneuses.
De tronçonneuses, oui. De marques de tronçonneuses, oui. Les plus grosses, les plus petites.
Oui. Ça, c'est pour le prochain film d'horreur d'Antoine Rimbaud.
Certainement, j'en sais rien. Oui. Après, on a parlé de brouette à moteur, parce que pour les pentes, on a parlé de jardin, de potager, de semences. Ouais. Ça, ça a été notre week-end.
Mais ça, c'est l'humain, ça.
On n'a fait que ça.
C'est pas la préparation du
film.
Vous n'avez pas parlé de lobby du tabac.
Non, c'était ça notre film. C'était
du groupe Europe Écologie Les Verts.
On a parlé aussi de ces mobilisations qu'il a fait en Belgique contre le nucléaire. Il était un des porte-parole du réseau contre le nucléaire en Belgique. Il a été dans les manifestations de jeunes pour le climat. Donc tout ça, on a parlé de ça, mais on n'a pas du tout parlé de cinéma au sens classique. Et lui, il s'est imprégné. Et en fait, on s'est retrouvés. Et moi, ça m'a énormément... j'étais ému de me dire qu'il avait envie de me jouer. Et lui, ce qu'il m'a dit après, c'est que voilà, il a trouvé que cette rencontre permettait pour lui d'alimenter peut-être beaucoup mieux que si on avait discuté de choses sérieuses qui n'avaient pas de sens.
Ça, c'est intéressant, Antoine Rimbaud. Ça veut dire que les deux personnages se sont retrouvés naturellement, qu'il y avait des points communs, finalement, entre les deux êtres humains qu'ils sont.
Et ça répondait à mon intuition. Moi, j'avais besoin un petit peu de valider cette intuition. Et vous dites, c'est l'humain, c'est pas le cinéma. Mais précisément, le cinéma, c'est l'humain. C'est-à-dire que c'est dans cette rencontre et dans cette construction humaine de cette rencontre que Bouly va trouver, comme ça, le socle de son travail.
Et si moi, c'était entendu comme chaîne faïence, vous auriez abandonné?
Oui, si, pour le dire autrement, s'il y avait eu, comme ça, un regard un peu circonspect de José sur celui qui doit l'incarner, celui qui doit l'incarner aurait senti ce regard circonspect, ne serait peut-être pas allé
ça aurait été un problème.
Si facilement, ça aurait pu. Voilà. Alors, je ne demandais pas non plus à José de me valider, mais simplement, je voulais mettre ces émotions-là en présence et voir ce qui se passe. Et il y a eu un désir fort, quoi. Des deux, d'ailleurs, je crois. Et ça j'ai l'impression que c'était vraiment la condition sine qua non pour qu'on y aille. Et Bouly, c'est vraiment... Il est parti là-dessus, quoi. Et ensuite, il a trouvé son chemin. Je ne l'ai pas plus guidé que ça. Je lui avais donné, avant la rencontre, énormément d'archives de José Bové dans plein de contextes
différents. Donc des reportages, des vidéos, pour voir la démarche, la façon de se tenir, la gestuelle, etc.
Tout en lui disant qu'il n'avait pas ni à retravailler sa voix ou son accent, ni à aller chercher des choses.
On n'est pas dans l'imitation.
Non, surtout pas. L'acteur n'est pas un imitateur, et ni dans la ressemblance pure et obsessionnelle. Par contre, il a fait son chemin et il a pris de ci, de là, une façon de poser la voix, d'attaquer les phrases, des gestes. Il était, par exemple, obsédé, ça m'intéressait beaucoup dans les détails, sur la pipe. Comment il bourre sa pipe, comment il avait déjà fumé un peu la pipe, donc c'était déjà il avait une intuition, mais il regardait comment José faisait. Mais ça l'a un peu structuré et ça lui a permis ensuite de créer, parce qu'on fait un José Bové de cinéma sur cette affaire au Parlement européen. C'est pas un biopic, quoi.
Bon, alors on n'est pas dans l'imitation, vous le disiez, mais bon, un José Bové sans les moustaches et sans la pipe, c'était pas possible.
Non, c'était pas possible, c'est vrai.
Bon,
c'était
et en même temps, Joaquim de Almeida ressemble à
un petit peu, mais pas
Barroso, un petit peu, voilà. Klaus Christian Schreiber,
pas
qui
complètement,
joue
un peu moins.
Martin Schulz lui ressemble un tout petit peu, mais pas Nicolas Vaud est assez loin de Danny Cohn-Bendit, mais il y a quelque chose de la tignasse. C'est quelques petits détails qui peuvent permettre de rapprocher le personnage de l'acteur, mais sans plus, quoi.
En tout cas, on n'est pas obsédé par ça, et on a besoin de s'affranchir un peu du réel, parce que si on ne s'affranchit pas du réel, on fait un documentaire, ça ne sert à rien, on va courir après le réel, on est obligé de faire autre chose. chose, quoi. Et donc, c'est dans la liberté de l'artiste, la nôtre quand on écrit, la mienne quand je filme, celle des comédiens quand ils se lancent dans ce personnage, et on trouve notre chemin. Et ça devient du cinéma.
Bon, petite curiosité, José Bové, Martin Schulz, vous l'appeliez vraiment Papa Schulz ?
Ben oui, ben, tout le monde a un surnom.
Ouais.
Alors moi, je ne sais pas quel était le mien, personne ne me l'a dit. Je ne sais pas si j'en avais un, mais peut-être pas. Mais c'est vrai que chaque fois, c'est oui, Schulz, c'était Papa Schulz. Ouais. Il était un peu pépère, un peu comme ça.
Très hésitant, très dans hésitant, le film, en tout cas, c'est comme ça qu'il apparaît. Hein.
C'est pas quelqu'un qui va taper du poing sur la table et qui est
oui, dirige la maison. Pour son rôle de président du Parlement européen, on pourrait
en dire. Et voilà, il est toujours en train de courber, comme ça, en fait.
D'éviter le conflit, quoi.
Éviter le conflit, on va pas y aller au clash, quoi. Donc, alors que le rôle du Parlement, c'est d'aller au clash avec la Commission. Quand on contrôle le budget, on peut le retoquer. On peut retoquer les commissaires, on peut tout faire. Et c'est notre boulot de parlementaire de faire ça.
Vous aviez l'impression que les parlementaires étaient un peu frileux sur la dimension contrôle ?
Ah oui, très clairement. Et justement, j'ai une alliée à ce niveau-là, qui est la présidente de la commission du contrôle budgétaire, donc Madame Gressle.
Inge dans le film.
Inge
oui.
dans le film, qui, elle, prend son travail très au sérieux. Elle est députée allemande et elle a cette rigueur de l'économiste allemande. Et en même temps, elle a raison de faire ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Et on peut tenir tête. Et je dirais que le Parlement sera d'autant plus fort qu'il sera capable de résister et d'imposer sa règle à la Commission. Et c'est comme ça qu'on a avancé depuis ces dernières années. Milena, Elena, Langae, Betae, Nakoufi, Fongola.
Mokili et Kokoko dans VMDN sur RFI autour du film Une affaire de principe qui sort mercredi prochain avec nous le réalisateur Antoine Rimbaud et l'ancien eurodéputé français José Bové incarné dans le film par l'acteur belge Bouly Lanners. Vous avez tourné le film dans les locaux même des institutions européennes, Antoine Rimbaud ?
Oui, on a été accueillis par le Parlement européen de Bruxelles et de Strasbourg puisqu'il y a deux parlements.
Et c'était important de tourner dans les deux endroits ?
Ah, je disais
Strasbourg
souvent...
est un petit peu sur la touche quand même par rapport à Bruxelles, non ?
Non, pas du
non,
tout.
Non, faut pas dire ça quand on est français.
Non, mais pas du tout.
Non, je vous dirai pourquoi après.
Alors, les votes se font à Strasbourg, c'est-à-dire que 3 semaines par mois, tout le monde est à Bruxelles, et puis 1 semaine par mois pour la session plénière, il y a une petite migration, une transhumance à Strasbourg.
Alors,
pour voter.
Voilà, vous avez mauvais précision, c'est ce que vous vouliez ajouter, j'imagine ?
Non, c'était encore autre chose, c'est que l'Europe est quelque chose d'extraordinaire, et c'est pas la France en grand, ni n'importe quel autre étant grand. Ce qui fait qu'on a un exécutif qui est à Bruxelles, dont c'est le siège officiel. On a le Parlement qui est à Strasbourg, qui est son siège officiel, même s'il y a des bureaux à Bruxelles. Le Conseil, la justice est au Luxembourg. Et donc, on a une espèce de... Plusieurs capitales, en fait, sont à la tête des institutions. Et ça, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, l'Europe, c'est pas un seul lieu. C'est l'ensemble de l'Europe qui participe aux responsabilités. Et ça, je crois que c'est, dans la symbolique, quelque chose de très fort.
Alors, c'est très symbolique aussi la façon dont vous montrez les bâtiments. Antoine Raimbaud, dès le départ, hein, donc il y a des plans extérieurs sur les bâtiments du Parlement, sur celui de la Commission, le Berlaymont à Bruxelles. C'est vraiment gigantesque, c'est impressionnant, vraiment l'impression d'une ville, quoi, d'une forteresse. Ouais. Quoi. Et il y a presque une volonté, je crois, chez vous, de personnifier quoi, finalement les bâtiments des institutions européennes.
Bah, c'était un enjeu passionnant de mise en scène, parce que ce sont des lieux assez peu filmés. En tout cas, la fiction s'en était pas encore beaucoup emparé, là où le cinéma américain se fait... Moi, je connais mieux...
Le Pentagone,
le Pentagone, le Capitole, ces bâtiments-là, je les ai tellement vus, quoi. Alors que nos institutions européennes, on les connaît trop mal. Donc oui, je voulais absolument trouver des points de vue et des façons de filmer. Nous, notre point de vue, c'est le Parlement, les parlementaires. On est beaucoup dans les bâtiments du Parlement. Et puis la Commission, qui est l'exécutif, dans laquelle se sont passées des choses qu'on ne nous raconte pas complètement, on la regarde un peu de l'extérieur, un peu à distance, un peu. On la voit un peu à travers ses vitres, derrière son énorme armure. Mur là de métal qui la dissimule. Voilà, donc j'ai trouvé effectivement des façons de raconter.
C'est aussi histoire. Un film sur la transparence d'ailleurs, au cas où on n'aurait pas encore compris.
C'est l'objectif, la transparence de nos protagonistes.
Voilà, ouais. C'est vrai que le décor participe pleinement de la dramaturgie et du scénario. On est dans ce qu'on appelle un thriller de bureau. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on voit donc les personnages à leur bureau, mais aussi dans les couloirs, les escaliers. Bref, ils marchent beaucoup et c'est souvent en marchant et en se déplaçant qu'ils parlent et que petit à petit le spectateur apprend les différentes informations. En même temps, parfois, que les protagonistes, c'est ce qu'on appelle en anglais le walk and talk. C'est une vieille technique qui a été inventée par les séries américaines en particulier. Antoine Raimbaud, comment on donne du souffle des gens comme ça qui ne font finalement que marcher et parler ?
En ne sacrifiant jamais rien au rythme. Voilà, c'est le rythme qui nous a gouvernés sur ce film, l'écriture, le tournage, le tempo des acteurs, mais aussi au montage. On a vraiment été hyper, hyper attentifs.
Ça veut dire que les dialogues sont écrits au cordeau?
C'est précis. Ouais. Et le rythme, c'est aussi la forme. C'est-à-dire que c'est quand même une écriture de suspense. C'est une enquête, c'est un film d'enquête. Hein. C'est ça qui nous emmène quand même.
Avec les petits détails, l'importance de l'arrière-plan aussi, quand les personnages se déplacent, vous faites vraiment attention
aussi,
à tout ça?
Aussi, je fais attention à tout ça. J'ai l'impression vraiment d'avoir cherché ça à toutes les étapes du film pour que ce soit passionnant, palpitant, avec des rebondissements, qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Alors oui, je dis moi-même thriller de bureau parce qu'il n'y a pas de revolver, il n'y a pas de poursuite en voiture.
Il y a des imprimantes, il y a des photocopieuses.
Voilà. Mais
voilà,
ça
y a le smartphone, très important le smartphone pour avoir des infos.
Aussi
bien le téléphone que le SMS et les courriels.
C'est une gestion de l'information et pour le spectateur, ça peut devenir spectaculaire tout d'un coup. Une conférence de presse dans laquelle on dégaine un téléphone portable sur lequel est enregistrée une confession dont le spectateur se demande ce que c'est et puis tac, on découvre. Et on se disait sans arrêt avec mon monteur, Jean-Baptiste Baudouin, qu'il fallait qu'il y ait une balle en l'air à chaque fin de séquence et qu'on jongle comme ça avec l'attention du spectateur et qu'on ne le lâche jamais.
Donc une sorte de cliffhanger de la séquence.
Un peu.
Plus que d'épisode du feuilleton. Alors, il y a aussi la musique qui joue aussi un grand rôle justement dans le rythme vraiment du film et dans justement ce côté suspense. Il y a une sorte aussi de tentative, je pense, de complicité, d'instaurer une forme de complicité entre le spectateur et les protagonistes.
Oui,
à
la
musique.
C'est à la fois un film de genre, c'est-à-dire qu'il y a des codes, et donc comme on n'a pas complètement en tant que spectateur les codes du Parlement, mais on a les codes cinématographiques, évidemment, qui est un langage universel, et donc on a joué avec ça, et la musique prend beaucoup en charge ça, le genre quoi, du thriller, et la musique fait un peu des clins d'œil au spectateur sur une notion de plaisir et d'ironie. Et ça, c'est pas seulement notre envie à nous, cinéastes, c'était vraiment la rencontre avec José et Jean-Marc, on a vu le plaisir qu'ils prenaient, eux, dans la bagarre. Et c'était très important dans nos échanges. Et José a ce petit sourire au coin des lèvres quand il vous raconte ses bagarres.
Il l'a depuis le début de cette émission, et je pense que ça s'entend aussi au micro, d'ailleurs.
Et Bouly a très très bien attrapé ça chez lui. Et le film a aussi un petit sourire en coin qui est aussi pris en charge par cette musique. On dit aux spectateurs à travers la musique dès les premières images du générique qu'on va un petit peu s'amuser aussi ensemble. Ouais.
Est-ce que vous avez assisté au tournage, José Bové? Vous êtes venu voir Bouly Lanners vous incarner à l'écran?
Alors j'ai fait quelque chose qui paraît-il ne se fait pas. C'est-à-dire que je suis venu le premier jour du tournage.
Grosse pression alors.
Et donc c'était Antoine m'a pas engueulé parce qu'il est poli et il m'a dit tu restes à l'hôtel. Et puis quand les acteurs ont fini leur journée, ils rentreront à l'hôtel, ils verront que t'es là. Et ça sera peut-être un peu moins difficile, mais je suis quand même allé le deuxième jour. Et bon, j'ai compris quand même très vite qu'il ne fallait pas recommencer l'expérience parce que c'était un peu, en plein début d'un tournage, compliqué, quoi.
Mais ça s'est très bien passé.
Ça s'est super bien passé.
Il y avait une appréhension légitime pour Bouly qui devait incarner José. Évidemment, c'est compliqué quand vous êtes acteur.
Bah oui.
Et donc, personne ne voulait lui mettre trop de pression, mais ça s'est très bien passé. Donc, le deuxième jour, José était assis en train de regarder ce qu'on faisait. On se tournait vers lui avec plaisir pour lui dire « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» C'était assez drôle.
Bon, et au niveau du scénario, José Bové, est-ce que vous êtes intervenu d'un bout à l'autre ou pas du tout, vous avez laissé les coups des franches à Antoine Rimbaud et à son co-scénariste?
À partir du moment où ils avaient tous les éléments de l'enquête, de l'affaire, des rebondissements, avec Jean-Marc, on les a laissés complètement libres.
Parce que c'est très technique, quoi, y compris du point de vue juridique, oui, on va pas rentrer dans le détail,
non, mais il y a des écueils
quand même à éviter.
Il fallait vraiment tout faire comme il fallait, donc on n'est pas du tout intervenu, on a juste... Voilà, au départ, travailler avec eux sur le fond, qu'on n'oubliait rien, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le film, parce que trop de choses auraient encore plus complexifié. Mais la façon dont ça a été simplifié pour tenir en une heure et demie fonctionne à fond. Et je dirais surtout, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que le film, il se termine avec un certain nombre de textes qui apparaissent à l'écran.
Pour expliquer ce qu'ont sont devenus les différents protagonistes.
Avec notamment donc le directeur de l'OLAF qui a été condamné l'an passé à un an de prison avec sursis. Et patatras, lundi dernier, en plein moment où on est en train de faire les avant-premières, il est en appel et là, il dénonce le président Barroso à la barre du tribunal à Bruxelles en disant « Mais c'est lui qui m'a demandé de faire ça. » Or, il n'a pas le droit de dire ça, il n'a pas le droit de le faire.
L'affaire n'est pas finie, c'est ça que vous êtes
en train de
l'expliquer ?
L'affaire est en train de rebondir. Et donc, Barroso risque d'être très bientôt questionné par une nouvelle procureure qui a été... nommé pour s'occuper de son cas.
Bon, affaire à suivre, alors comme on dit...
Génial, c'est le deuxième tome.
Voilà,
deuxième
film. Voilà, c'est du pain béni, évidemment, pour la sortie du film, Antoine Rimbaud. Le film qui sort d'ailleurs à quelques semaines des élections européennes, c'est un hasard total ou pas complètement?
Non, alors c'est toujours des processus très longs de faire des films. Celui-là a dû prendre 3 ans. Mais évidemment, quand on s'est retrouvé au montage avec la possibilité de le sortir avant les élections, on a tout fait pour. Ça aurait été quand même vraiment idiot de le sortir après les élections, c'est-à-dire 5 ans trop tôt ou 2 mois trop tard. Donc, on s'est un peu mis la rate au courbouillon pour finir le film à temps. Et on est content parce que l'enjeu du film, c'est de s'intéresser aux institutions et si possible, de donner envie d'Europe. Voilà, c'est important.
Et envie de voter.
Et bien, du coup,
tant qu'à faire.
Ouais, c'est crucial.
Merci. Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Rimbaud et José Bové. Une affaire de principe sera donc sur les écrans français à partir de mercredi prochain. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. On se retrouve demain pour une émission autour de l'exposition Olympisme, une histoire du monde au Palais de la Porte Dorée à Paris. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.